Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui,
Henri Guénaud. J'ai été commissaire au plan entre 1995 et 1998. Et puis, on dit aussi que j'ai été l'inspirateur d'une certaine campagne présidentielle en 1995 sur la fracture sociale.
Diable. Alors, comme d'habitude, je lis les journaux et ces derniers temps, enfin, j'avais lu des choses qui concernaient EDF. J'avais appris que lors du sommet européen à Barcelone, à la mi-mars, finalement, les 14 pays de l'Union européenne pressaient le gouvernement français d'ouvrir le marché à la concurrence à 100%, y compris pour les particuliers. Mais, ouf, c'est du moins ce que j'ai compris, le service public d'EDF était sauvé grâce à l'action conjointe de Chirac et Jospin. Enfin, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Oui, c'est pas tout à fait ça, même si le sommet de Barcelone marque une inflexion dans le processus de libéralisation du marché de l'électricité en Europe. En fait, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre où nous en sommes et pour comprendre ce qui vient de se passer. L'histoire commence en 1996, quand les pays européens ont accepté de signer une directive sur l'électricité, qui prévoit la libéralisation d'une partie du marché dit des professionnels, c'est-à-dire du marché des entreprises. À partir de cette date, les clients d'une certaine taille, les clients d'EDF d'une certaine taille, ont le droit de s'adresser à d'autres fournisseurs d'électricité qu'EDF. Une instance a été créée pour veiller à la régularité de la concurrence, qui s'appelle la Commission de régulation de l'électricité. Voilà, donc l'ouverture a commencé en 1996 et il est clair que dès lors que le marché était partiellement ouvert, un jour ou l'autre, il allait devoir s'ouvrir en totalité. Pour une raison très très simple, c'est que en ne l'ouvrant qu'à une partie des acteurs, on crée une distorsion de la concurrence qui est insupportable pour ceux qui ne sont pas dans la partie, qui ne sont pas soumis à la libéralisation. Dans le système actuel, un gros client d'EDF peut bénéficier de tarifs plus avantageux qu'un petit client professionnel d'EDF, ce qui met l'entreprise petite ou moyenne dans une situation de désavantages relatifs par rapport à des concurrents plus importants. Donc, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, le marché des professionnels s'ouvre à 100%. À Barcelone, il a été décidé que cette ouverture serait achevée en 2004. On avait prévu auparavant, je crois, de faire ça en 2003, donc on a reculé d'un an le calendrier. On a ensuite regardé la question du marché des particuliers. Alors pour l'instant à Barcelone, on a décidé de ne pas donner de date sur l'ouverture du marché des particuliers. Ce qui ne veut pas dire que le marché ne s'ouvrira pas. En réalité, le marché s'ouvrira fatalement un jour ou l'autre dès lors que le marché des professionnels est ouvert.
Oui, pourquoi?
Tout simplement, on ne peut pas maintenir séparés très longtemps les deux marchés à l'intérieur de la même entreprise. Si on voulait le faire, il faudrait d'abord s'entendre sur une définition claire des professionnels et des particuliers, pour tracer une frontière juridique qui soit nette et incontestable. Deuxièmement, il faudrait sans doute séparer l'entreprise d'électricité en un compartiment destiné aux particuliers, un compartiment destiné aux professionnels, l'un vivant les règles de la concurrence, l'autre vivant sous l'empire du service public, et puis mettre probablement à part la production qui fournit les deux marchés. Donc il faudrait accepter de couper en trois l'entreprise Électricité de France. sachant que celle-ci est soumise à une autre coupure déjà envisagée par les textes européens, qui est la coupure entre les infrastructures de transport de l'électricité d'une part et puis la distribution de l'autre. Tout ça pour permettre aux concurrents de faire transiter leur électricité sur le réseau de ces infrastructures de transport électrique. Donc on aura en réalité une entreprise qui serait coupée en 4 morceaux indépendants, ce qui serait évidemment extrêmement dommageable pour l'outil industriel. Donc il est clair qu'à terme, de toute manière, le marché des particuliers sera lui aussi un jour ou l'autre ouvert. La précaution qui a été prise à Barcelone et qui est d'une certaine manière un peu nouvelle, c'est que on dit que on attendra pour ouvrir le marché des particuliers de s'être mis d'accord sur la directive européenne des services publics, c'est-à-dire la directive qui va fixer les règles que les États peuvent mettre en œuvre pour préserver les missions de services publics. Et qu'ils vont donc appliquer ou qu'ils seront autorisés à appliquer demain à toutes les entreprises fournissant de l'électricité, du chemin de fer, de la poste, de la santé, etc. Donc c'est sans doute là que se situe l'infléchissement majeur, c'est que pour une fois on conditionne la libéralisation d'un secteur de l'économie ou d'une partie de ce secteur à la mise au point de cette directive sur les services publics qui n'allait pas de soi encore il y a quelques temps, parce que la notion de service public est une notion au fond, on s'en rend compte aujourd'hui, très française.
J'aurais voulu savoir pourquoi les gouvernements, je ne sais pas trop, ont finalement signé les directives de 96. Ça me semble assez obscur.
Oui, ça semble obscur à beaucoup de gens, notamment à tous les défenseurs du service public. Ça me paraît à moi-même assez obscur, dans la mesure où d'abord rien ne nous y forçait, mais non seulement rien ne nous y forçait, mais en plus il se trouve que le secteur de l'électricité est celui dans lequel il est le plus difficile techniquement et économiquement d'appliquer les règles de la concurrence, pour des raisons qu'on comprend aisément dès qu'on se penche sur le sujet, à savoir que l'électricité est un bien qui n'est pas stockable, on ne peut pas la conserver. Un kilowattheure ne peut pas être distingué d'un autre kilowattheure, et en plus on la transporte très mal. Donc il est très difficile dans ces conditions techniques d'introduire de la concurrence, et d'ailleurs dans le passé, même dans les phases extrêmement libérales, la concurrence n'existait pas vraiment en matière d'électricité, puisque à l'époque où c'était d'un secteur privé, on accordait des concessions. C'est une sorte de concession de service public en fait, mais on ne séparait jamais par exemple les infrastructures et l'exploitation, et on ne mettait pas en concurrence auprès des consommateurs sur une zone géographique donnée les différents fournisseurs d'électricité, parce que c'est extrêmement difficile. Et enfin, c'est un secteur qui est soumis à ce que les économistes appellent une sorte de loi des rendements croissants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements à faire pour pouvoir produire de l'électricité, qui mettent très longtemps à fournir un rendement financier, et d'autre part qui créent des sortes d'indivisibilité qui font que plus on est une grande entreprise, plus on fait d'économies d'échelle et plus on arrive à produire de l'électricité à moindre coût. Ce qui fait que toujours il y a eu dans ce secteur, depuis toujours, depuis que ça existe, une tendance à la concentration plutôt qu'une tendance à la division en entreprises de plus en plus petites. Donc des entreprises de plus en plus grandes qui progressivement s'acheminent vers des situations de monopole pour des raisons non pas idéologiques mais de calcul économique rationnel, qui a conduit d'ailleurs beaucoup d'États occidentaux, notamment après la guerre, à constituer des grandes entreprises de services publics avec des monopoles publics plutôt que des monopoles privés. Voilà, ça n'était pas un choix tant idéologique d'ailleurs qu'un choix de rationalité économique. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que au nom de l'économisme ambiant, on est allé contre les lois élémentaires du calcul économique, de la rationalité économique, de l'efficacité économique. Il est clair que les entreprises d'électricité en Europe demain seront moins efficaces sans doute qu'hier. En tout cas, ça sera le cas pour, ça sera incontestablement le cas pour EDF, qui était une incontestable réussite sur le plan technique, économique, sur le plan des coûts, de la continuité du service et en même temps de l'accomplissement des missions de service public.
Donc, quand on nous dira peut-être que c'était de l'intérêt des consommateurs de libéraliser le service de l'électricité,
ça, il est assez difficile d'accréditer cette thèse, dans la mesure où ça ne fait pas réellement baisser les prix, notamment les prix des consommateurs particuliers. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché de l'entreprise et on se rattrape souvent sur les particuliers. Deuxièmement, ça met en péril la continuité du service, la sécurité de l'approvisionnement. Et je ne crois pas que l'intérêt des consommateurs ait particulièrement été soigné en Californie, par exemple. Donc on est dans une situation où on ne voit pas tellement les avantages évidents pour les consommateurs, encore une fois, parce que techniquement, la concurrence s'applique très mal dans ce secteur.
Aligre FM avec Henri Guénaud qui nous parle de la privatisation rampante, on pourrait peut-être dire d'EDF. Je comprends pas toujours tout, hein, vous savez, en économie. Et là, je comprends pas trop, parce que juste avant la musique, on était en train de dire, mais finalement, non, ce n'est pas de l'intérêt du consommateur d'aller dans cette direction. Alors encore une fois, pourquoi ?
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une idéologie dominante qui veut que la concurrence soit la solution à tous les problèmes et qu'elle soit toujours efficace, ce qui, en l'occurrence, pour l'électricité, n'est techniquement pas vrai. Laissons de côté le débat idéologique, ce n'est techniquement pas vrai. La deuxième remarque, c'est que cette idéologie de la concurrence a beaucoup imprégné les institutions européennes, la construction européenne depuis le départ. Il faut savoir que en Europe très longtemps, le seul droit européen était le droit de la concurrence. Et que nous payons aujourd'hui le prix de tous les engagements, de tous les traités, de tous les textes que nous avons signés, négociés, ratifiés sur la base de ce droit de la concurrence. Donc, c'est tout ce qui nous arrive, c'est la conséquence des choix que nous avons faits au moment du marché unique, bien sûr, mais aussi au moment de Maastricht, qui n'a pas été le moment de remise en cause qu'il aurait pu être. Et puis, ensuite, les directives qu'on a prises sur la base des traités, notamment la directive de 96. Il y a une espèce d'engrenage en Europe, d'engrenage administratif, bureaucratique, technocratique, juridique, et aussi, il faut le dire, politique, qui fait que on ne revient presque jamais en arrière et que la responsabilité politique ne s'exerce presque jamais à propos des textes européens. Et une fois qu'ils sont signés, on voit là avec la directive de 96, eh bien, le reste suit logiquement. Il y a un engrenage logique. C'est une fois qu'on ouvre à la concurrence, il faut aller au bout. C'est ainsi. Donc là, il faut être conséquent, et je crois que c'est le vrai problème politique actuel, il faut être conséquent avec les décisions qu'on prend. Nous payons le prix des décisions passées, et je suis convaincu que, hélas, nous n'avons à ce stade pas d'autre choix que d'assumer ces conséquences le mieux possible pour essayer de perdre le moins possible. Alors sans doute on peut déplorer, moi je suis le premier à le déplorer, qu'on ait trouvé une faible majorité pour ratifier le traité de Maastricht. On aurait pu sans doute à ce moment-là remettre en cause beaucoup de choses. On ne l'a pas fait, c'est triste à dire, mais une majorité de Français ne s'y est hélas pas opposé. De même qu'aucune majorité politique ne s'est opposée à la directive de 96 sur l'électricité, puisque c'est d'elle dont nous parlons, ni ce qu'on appelle la droite qui l'a signée, ni ce qu'on appelle la gauche qui l'a ratifiée. Bon, maintenant, nous sommes confrontés aux conséquences de ce que nous avons collectivement décidé. Et ce que nous avons collectivement décidé pour l'instant, c'est de construire une Europe dans laquelle la notion de service public à la française telle que nous la connaissions n'a pas sa place. On pourrait même dire plus brutalement que la notion de pacte social, de contrat social tel que nous la connaissions en France n'a pas sa place, et que même le modèle républicain que nous avons construit depuis 200 ans en France n'a pas non plus sa place. Il faut s'y faire, c'est l'Europe que nous avons voulu. Alors, c'est pas dire qu'on peut pas infléchir les choses, mais dans l'avenir, mais il faut savoir que ça sera très difficile, et que beaucoup de logiques sont déjà enclenchées, que nous ne sauverons pas la totalité de notre modèle républicain, pour faire simple. maintenant, nous sommes confrontés à ce véritable problème politique, moral, de l'avenir de la République dans l'Europe telle qu'elle est. Il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir en faisant des chartes sociales ou des chartes des droits fondamentaux. Il va falloir s'impliquer très fortement dans le processus de réflexion sur la Constitution européenne, sur les principes qui la fonderont, sur la part qui va rester dévolue aux démocraties nationales. Je crois que tout ça, c'est ce qui nous attend demain. Et qu'en tout état de cause, les tenants du modèle républicain, du pacte social, du modèle social français, ou même d'un modèle social européen qui ne serait pas demain condamné à devenir un modèle anglo-saxon, tous ceux qui veulent empêcher cette évolution qui paraît aujourd'hui inéluctable doivent regarder les choses en face, tirer les conséquences de ce qui a été fait et s'engager pleinement dans la réflexion et dans le combat sur les futures institutions européennes.
Mais là, il y a peut-être certaines personnes qui pourraient vous dire, mais finalement, on ne va pas vers une libéralisation d'EDF, on va simplement peut-être vers une ouverture du capital. En tous les cas, c'est ce qu'on nous a annoncé dans les médias.
Oui, alors ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on a rompu avec le monopole, on a rompu avec le modèle ancien du service public à la française, avec comme conséquence que les marchés seront libéralisés et que deuxièmement, la libéralisation des marchés obligeant fatalement EDF à reculer sur le marché national pour laisser de la place à des concurrents, elle oblige quasiment EDF à aller conquérir des positions pour compenser ce recul à l'extérieur du territoire national dans d'autres pays européens. Je dirais que c'est presque obligatoire dans la mesure où nous avons construit collectivement la plus grande entreprise d'électricité du monde et sans doute la plus performante, que si on ne veut pas perdre cet avantage là, ben il va falloir compenser le recul ici par une avancée ailleurs. Seulement pour avancer ailleurs, on l'a vu récemment quand EDF a voulu aller en Italie, il faut, si on veut pouvoir racheter les autres, être aussi soi-même rachetable. Donc il faut que le capital soit ouvert. Là où il y a une hypocrisie assez profonde à mon sens, c'est de laisser croire qu'en ouvrant un peu le capital d'EDF, on va préserver l'essentiel du modèle de service public à la française. Une fois que le capital est ouvert, que ça soit un peu, beaucoup, minoritairement ou majoritairement, l'entreprise est forcée de se comporter selon les règles de la concurrence et de la rentabilité financière, et non plus selon les règles et les critères du service public. C'est fatal. Donc on se trouve, on l'a vu avec France Télécom, on se trouve confronté à la situation suivante. Si vous ouvrez un peu si vous n'ouvrez pas le capital, vous ne pouvez pas vous étendre. Si vous ouvrez un peu le capital, vous ne pouvez pas pénaliser les actionnaires qui sont rentrés, donc vous êtes obligé de viser la rentabilité financière, ce qu'on appelle aujourd'hui la création de valeur pour l'actionnaire, et non plus la création de valeur pour la collectivité. Et dès lors que vous avez besoin de capitaux supplémentaires pour vous développer, vous êtes obligé de faire appel au marché. Alors, l'État ne peut évidemment souscrire en théorie à des augmentations de capital et garder sa part. Simplement, si l'État le fait, Bruxelles l'accusera de subventionner une entreprise concurrentielle et donc de créer une distorsion de la concurrence, un désavantage pour les autres concurrents, producteurs et distributeurs d'électricité. Dans ces conditions, il sera très difficile à l'État d'injecter les moyens financiers nécessaires dans cette entreprise. D'autant en plus que l'État, on le sait, a de moins en moins de moyens financiers disponibles pour ce type d'opération. Donc, ils seront obligés de perdre petit à petit sa part de capital jusqu'à perdre la majorité. Simplement, ça se fera dans la pire des conditions. Moi, j'appelle ça la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'à la fin, ou bien vous gardez la majorité mais vous vous surendettez comme France Télécom, vous arrivez au bord de la faillite, ou bien vous perdez progressivement la majorité. Simplement, vous la perdez sans avoir fixé avant les règles qui vont régir les rapports entre l'État et cette entreprise dans laquelle la collectivité a consenti, pour laquelle la collectivité a consenti beaucoup d'efforts et qui est un outil industriel formidable.
C'était Jane Birkin. Vous écoutez Des Sous et des Hommes et nous sommes toujours en compagnie d'Henri Guénaud, qui est ancien commissaire au plan. Tout à l'heure, il nous parlait du service public, d'EDF Et ma question, c'était, est-ce qu'on peut quand même sauver quand même un petit peu quelque chose de cette entreprise qui, finalement, je pense, satisfaisait quand même assez les Français?
Oui, qui avait des résultats tout à fait étonnants, que, du point de vue technique comme du point de vue économique, puisque tout le monde était servi en courant et avec un prix de revient du courant qui est relativement faible par rapport à tous les autres pays développés. Et une sécurité d'approvisionnement très grande. Alors, évidemment, il faut essayer de sauver l'essentiel. Ça veut dire, comme je le rappelais tout à l'heure, qu'il faut être conséquent. Je ne sais pas si la libéralisation continuera indéfiniment, mais il se peut que des accidents dans l'avenir remettent en cause tout ce processus. On est à l'abri de rien. Mais en attendant, les choses qu'on voit bien sont enclenchées dans cette direction et vont continuer, quelles que soient les majorités au pouvoir. On ira vers la libéralisation. Alors, comment sauver l'essentiel, d'abord en évitant le démantèlement de l'entreprise. Ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. On voit aujourd'hui fleurir des plans de réorganisation, je pense à EDF en particulier, ce qui avait motivé l'article que vous citiez tout à l'heure, qui prévoit quasiment le démantèlement de l'entreprise en créant à l'intérieur des centres de profit autonomes qui demain seront transformés éventuellement en filiales indépendantes, de sorte que l'entreprise éclaterait. À ce moment-là, si l'entreprise éclate, il est clair qu'on ne pourra pas faire remplir des missions de service public, même prévues par la loi, à une entreprise qui serait partie en petits morceaux et qui pourrait être vendue, rachetée sur le marché. Il faut donc préserver l'intégrité de l'entreprise, à l'exception du réseau de transport qui est déjà sorti par les textes. Il faut préserver une entreprise intégrée. J'irais même plus loin. Je crois qu'il faut s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait avant d'ouvrir éventuellement le capital de cette entreprise à réaliser la fusion entre EDF et GDF de façon à constituer un grand pôle d'énergie développant une offre combinée gaz électricité et auquel serait dévolu par la loi des missions de service public, même si le capital n'appartient plus en tout ou partie à l'État. Mais il me paraît nécessaire aujourd'hui d'avoir très vite, de mettre au point très vite une stratégie industrielle à propos de ce pôle d'énergie si on veut demain pouvoir préserver son intégrité et pouvoir lui faire remplir des missions de service public.
Que l'État reste quand même garant d'un certain nombre d'éléments.
Moi, je crois qu'il faut absolument, alors on pourra peut-être prendre appui sur la directive des services publics européens, mais je pense que d'ores et déjà, on pourrait très bien, indépendamment de la libéralisation et de la privatisation, prévoir des règles qui s'appliqueraient en particulier à EDF et à GDF, lui assignant des missions de services publics, compte tenu de ce qu'ont été les investissements publics dans ce domaine, compte tenu aussi de l'importance du nucléaire, hein, qui quand même rend et de l'importance stratégique de la fourniture d'électricité. Je crois que c'est tout à fait possible, à condition de le vouloir et de tirer tout de suite les conséquences, encore une fois, de ce que nous avons décidé, de la voie dans laquelle nous avons décidé de nous engager et où je ne vois aujourd'hui aucune force politique décidée à nous sortir. Donc, voilà, avoir une vision industrielle, garder l'intégrité de l'entreprise, éviter qu'elle soit démantelée, probablement réfléchir à la fusion EDF-GDF et enfin faire une loi fixant les relations entre l'État et ce pôle d'énergie et les missions qui lui sont confiées.
Et oui, c'était bien des souhaits des hommes. Nous étions en compagnie d'Henri Guénaud, que je remercie vraiment d'être venu. Il vient de sortir un livre, imaginez-vous, qui s'appelle « La sottise des modernes » et qui est publié chez Plon. Je vous en conseille la lecture. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Marie Arribet, qui fait partie du conseil scientifique d'ATA, qui est professeur à Bordeaux et qui nous parlera de la retraite. Ça sera sans doute passionnant. En tous les cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.